Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Des fois, il suffit que l'un des leurs soit malade pour contaminer toute la colonie. Et la ville de Vichy, par exemple, devient une ville morte. Plein de familles en deuil, de cadavres. Les cadavres de condition sont des cadavres comme les autres. Qu'ils soient de condition ou non, ça n'empêche pas, c'est qu'ils apportent l'affection et qu'elle va de partout. Alexis Mathieu se parle peu parce qu'ils sont très fatigués et doivent être toujours aux aguets de peur d'être pris. Ils sont très liés par les épreuves qu'ils ont ensemble. La peur d'être pris, mais aussi et surtout d'avoir la maladie. Oui, la maladie. Chacun observe l'autre sans rien dire. Si l'un était malade, ce serait terrible. Ce serait terrible pour l'autre. Il serait perdu. Il aurait perdu son plus grand ami. Ils n'ont plus besoin même de se parler pour se comprendre. Un coup d'œil, un geste, et chacun sait ce que veut l'autre. Haïti lui dit, lorsque nous arrivons à Paris, nous ne quitterons plus jamais. Et les jours passent. Ce qu'ils voient est de plus en plus désolant. Ces morts, ces tueries, ces émeutes. Tous ces gens qui ne comprennent pas qu'on leur veuille du bien, qui ne veulent pas être mis en quarantaine et se révoltent. Et puis les deux garçons ont de plus en plus de difficultés parce que la campagne se rétrécit. Il devient plus difficile de se cacher et de trouver un coin tranquille. Ils sont obligés de passer par les villes, de se cacher dans les caves. Des caves d'immeubles abandonnés risquent là la contagion, plus qu'à la campagne. Parce qu'il y a des rats, des chiens, à demi-sauvages, à moitié fous, qui s'attaquent à tout et qui mangent n'importe quelle viande, n'importe quoi. Ils ne dorment que d'un œil. Avec un gourdin près d'eux. Dès qu'ils entendent le moindre petit bruit, ils se lèvent. Et si c'est une bête, ou un chien, ou un rat, ou autre, ils prennent le gourdin. Des vêtements déchirés, maigres, très maigres, mais vivants, au milieu de tout ça, de tous ces morts. Un jour, ils sont pris au milieu d'une bagarre, d'une émeute, entre forces de l'ordre et pauvres gens. Ils sont obligés de courir pour ne pas être pris. D'un coup, la file, la foule, les pousse. Et les fait rentrer dans un immeuble. Elle les pousse et elle entre aussi. C'est un vieil immeuble. Ils sont poussés par les gens, reculent. Les soldats entrent aussi. Ça crie, ça hurle. Ça se bouscule. Eux, ils essayent de se faufiler, puis montent en vitesse ces 5 étages. Les autres montent aussi. Ils montent. Les autres les suivent. Arrivé au dernier étage, c'est le grenier. Ils ne peuvent reculer. Redescendre. Les autres continuent à monter. Les escaliers sont pris d'assaut. Alors ils entrent dans le grenier. Etsy ouvre la porte et dit, et il voit la résistance et dit, tue-toi. Le résistance n'est pas trop haut. Il pousse le résistance, Mathieu. Tout ce bâtiment se passe, passe à l'extérieur. Mathieu en fait autant. Ils se mettent à courir. Ils savent que les autres sont prêts. À travers les cheminées, les briques disloquées. Au bout d'un moment, comme ils voient qu'ils n'ont pas été poursuivis, ils s'arrêtent de courir, ils s'assoivent contre une cheminée. Mathieu dit, nous sommes coincés. Parce que les émeutiers sont toujours dans le quartier et en bas et on les entend. Et ici lui dit, non. Nous trouverons bien une fenêtre pour entrer dans une autre allée. Viens. Et suivent le toit. Ils vont de toit à toit. Sans rien trouver. Les maisons sont toutes l'une à côté de l'autre. Ce qui permet d'aller d'un toit à un autre facilement. Et elles sont à peu près de la même hauteur. Enfin, ils voient une fenêtre qui donne sur un grenier. Haïti prend une tuile pour briser la vitre, pour entrer dans le grenier. Et tape sur la vitre. Ils y arrivaient après plusieurs coups. La vitre s'est brisée. Saute dans le grenier. Au milieu du grenier. Au couloir et trouve la porte de sortie. Elle n'est pas fermée. Ils sortent du grenier. Et prennent les escaliers. L'allée est sombre, pas de bruit. Ils descendent les escaliers. Sur un palier, tout d'un coup, une porte s'ouvre. Ils n'ont pas pu se cacher. Apparaît un jeune homme en blouse blanche, taché de sang. Avec une veste et une mallette de cuir. Porte à la main. Il leur dit bonjour avec un beau sourire. Il est vrai que ce jeune homme a l'air très sympathique et beau. Cheveux châtains épais, yeux bleus qui pétillent, lèvres pulpeuses, sourire délicieux, la taille bien mise. Mathieu semble, il lui semble que cette personne lui rappelle quelqu'un, mais qui et il l'a vu où, il ne se souvient plus. Je me leur dis, quelle journée, deux opérations. Il enlève sa blouse blanche, qui est tachée de sang, la met dans son sac. Elle met sa veste. Il leur demande, qu'est-ce que vous faites là? Et il dit, nous descendons. Je l'homme les regarde bien et leur dit, vous ne seriez pas des fugitifs par hasard? Ils ne disent rien, ils sont trop fatigués. Je leur dis, pouvez me faire confiance, je suis contre la quarantaine. Parce qu'on voit moins de gens. Vous allez où? Elle s'y sent qu'il peut lui faire confiance. Puis il faut bien essayer. Alors il lui dit, ben nous aimerions, c'est retrouver notre famille à Paris. Mais ça lui dit, ah bon, c'est mieux pour travailler. C'est plus facile. Par ici, il y a trop de médecins, de camions, de policiers et tout. Et puis il y a la quarantaine. C'est pas facile pour travailler. Sans le métier en ce moment. Moi aussi, je vais retourner à Paris. Je ne peux pas rester ici. Et puis, je ne peux pas laisser mon patient. Il faut que je lui trouve ce qui lui manque. Et ici, c'est impossible. Venez, descendons. Et ils descendent. Et sortent de l'immeuble. Il leur dit, venez. Je vais mener à ma voiture. Il les mène à une voiture où il y a une plaque de médecin. Il leur dit, avec ça, on ne risque rien, on ne peut pas se faire prendre. J'ai pris la voiture d'un médecin que j'ai opéré. Il n'en avait plus besoin. Il ouvre la portière, les portières. Entrez, le fait entrer. Et il lui rend. Et il met la voiture en route. Il a vu ce jeune homme. Mathieu lui dit, on a de la chance d'être tombé sur lui. Alexis lui dit, oui. Mais ça leur dit, nous arrivons à Paris pas avant 2 heures. Il quitte la ville. Les rues sont remplies de camions, de soldats. En dehors de la vie, c'est la même chose. Il me demande, vous êtes médecin? Oui. Mais vous semblez bien jeune, médecin lui dit. Je suis plus vieux qu'on ne le pense. J'ai fait la chirurgie esthétique, le corps en entier, changé toute la peau. Mathieu lui demande, ça doit être très cher et douloureux. Médecin lui dit, non, mais on est endormi. Et nu, dans un casier, c'est très reposant. Et s'il manque, ça va coûter une fortune. Pas pour moi. La clinique m'a fait ça gratuitement. J'ai eu un accident à cause d'eux. Un de leurs médecins voulait me tuer. Un dénommé Ricain. Un furieux. Un fou furieux. Méfiez-vous des médecins, Mathieu lui dit. C'est ce que nous faisons, et il continue à rouler. Il y a de moins en moins de monde sur la route. S'il se demande toujours où il a vu cette personne. Continue à rouler en silence. Ils sont très fatigués. Au fur et à mesure qu'ils approchent de Paris, les camions de l'armée, les ambulances circulent. J'arrive à Paris sans encombre, à cause de la plaque médecin qui est sur la voiture. Ils passent même les barrages de police. Arrive à Paris dans la nuit. La ville ne semble pas avoir changé, sauf qu'il y a des camions qui sillonnent la ville, des soldats, des cars de police, des pompiers médecins. Des gens qui crient. On emmène sur des brancards des gens. On entend des appels de police. Le médecin demande, venez chez moi si vous voulez. Ah, ici lui dit, nous aimerions mieux c'est rentrer chez nous. Nous sommes inquiets à cause de nos parents. Mais ça lui dit, je comprends, mais 5 minutes. C'est court à votre âge. Vous avez le corps tout neuf et chaud, la peau tendre. Mathieu se dit, c'est un PD. Il lui dit, non merci, nous voulons rentrer. Le médecin lui demande, où? Et s'il lui dit, Montparnasse. Et le médecin les y conduit. À Arrivé à Montparnasse, ma queue lui montre où il faut s'arrêter. Là, tout semble calme, Dieu merci. Et il fait arrêter la voiture devant l'immeuble. Ça leur dit, bon, et ben, au revoir. J'espère c'est que nous nous reverrons. Je lui dis, oui, bien sûr. Le médecin, qui les trouve très sympathiques, leur dit, attendez, j'ai une chose à vous donner. De toute façon, je ne peux rien en faire. Et vous, vous devez certainement manquer de provisions. Il ouvre sa mallette, en sort un paquet assez important, enveloppé d'un chiffon. Il donne à Alexis, tenez, qu'est-ce que c'est? Il lui dit, c'est très bon et nourrissant. Frais aussi, ça vient d'être pris. Alexis lui fait, merci. Le médecin lui dit, de rien, peut-être qu'un jour ce sera vous qui allez me donner quelque chose. Ils sortent de voiture et ils voient la voiture s'enfoncer dans la nuit. Elle a disparu. Mathieu lui dit, il est gentil. Et s'il lui dit, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Mais où? Et ils entrent dans l'allée où habite la mère de Mathieu. Mathieu lui dit, on va d'abord chez ma mère prendre une douche. Sonne à l'appartement. Il ouvre la mère et surprise. Entrez. Ferme la porte. Pleure et dit. Oh, oui, voilà enfin. Je faisais tellement de soucis. Ils s'embrassent. Mathieu demande. Comment vas-tu, maman? Elle fait, et toi? Il lui dit, ça va. Elle le regarde bien et lui demande, que vous est-il arrivé? Mathieu lui dit, oh, ça n'a pas été facile de revenir. Est-ce qu'on peut prendre une douche? Elle lui dit, allez-y. Et il court, tellement il est heureux. Leurs vêtements et prennent leur douche ensemble. Ça leur fait du bien. Ils se lavent mutuellement. Mathieu dit, je demanderai à ma mère qu'elle nous trouve quelque chose de propre à mettre. Puis s'essuie. Ils sortent de la douche. Ils se sont mis des serviettes autour de la taille. Ils demandent à sa mère quelque chose à mettre pour eux deux. Elle leur donne chacun un pyjama qu'ils mettent. Elle leur dit, que vous êtes maître, mais qu'est-ce que vous êtes maigre? Elle s'y demande, On a faim. Mathieu dit, on a faim. Elle dit, je vais préparer ça. Et s'y demande, et mon père? Elle lui dit, il est en haut. Bien, j'y vais. Et sort de l'appartement, pieds nus, pour monter au grenier.
Frappe à la porte, entrez.
Son père n'a pas changé. Il s'embrasse. Et s'y demande, et maman? Il lui dit, elle est toujours en prison. Et avec les événements, on l'a oublié. Pauvre maman, et toi? Moi, ça va. Et toi, dis-moi ce qui t'est arrivé. Alexis le lui dit en deux mots. Puis, trop ému de revoir son père, ils sont descendus chez les servants. Les garçons ont parlé de leur équipée. La mère a préparé le repas. Tout en parlant, ils ont continué à parler. Et s'y demande, et à Paris, son père lui dit, beaucoup de morts, dans le quartier aussi. La terreur, la peur de la maladie, l'on mange cuit, l'eau bouillie. On parle que pour éviter la contamination, de démolir les immeubles insalubres. On y trouve des cadavres de pauvres, et même dans la Seine. Ce qui fait que l'eau est encore plus polluée. Des hommes en noir en profitent pour faire leur tuerie. La mère, qui était sortie à la cuisine, revient avec un paquet et demande, qu'est-ce que c'est? Si, lui dit, c'est un médecin, celui qui nous a raccompagnés, qui nous a donné ça. Et il demande, et qu'est-ce que c'est? Il lui dit, quelque chose à préparer et à manger. Et lui dit, bon, eh bien, tu le ramèneras chez toi. Il lui dit, non, je vous l'offre. Merci, je préparerai la chose. On peut voir ce que c'est? Il lui dit, oui, bien sûr. Elle défait le paquet. Voit que le tissu, en fait, c'est une robe blanche. Je vois aussi que le paquet contient une chose assez grosse, ragoûtante, qui ressemble affreusement à un corps. Elle dit effrayée, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est un corps, c'est dégoûtant. Je lui demande, c'est un corps de quoi? J'aime mieux pas le savoir. Il lui dit, ça peut être bon. Tu vois ce que c'est? Elle lui dit, faudra peut-être le lui demander, mais je n'ose pas. Je n'ose pas lui demander ce qu'il est. Elle referme le paquet avec le linge et dit, ce qu'il ferait bien, c'est de le mettre à la poubelle. Elle voulait vous faire une farce, ce médecin. Et tu lui dis, je crois me souvenir que je l'ai rencontré la première fois. J'étais dans le train. Il disait qu'il était chirurgien spécialiste des opérations du corps. Je crains, c'est que c'est un fou très dangereux. Je suis navré pour le corps. Elle m'a dégoûté, prend le corps et le met à la poubelle. Oh. elle leur dit. Ce n'est qu'un corps et rien d'autre. Elle s'assoit et dit, j'ai plus faim. Eux non plus faim. Voilà un bon coup de faim efficace. Comme ils n'ont plus faim, ils débarrassent la table. Elle fait la vaisselle. Ils vont au salon. Vous passez un moment ensemble. Ils s'assoivent. Les deux garçons sont fatigués. Mathieu demande, maman, tu continues à travailler ? Elle dit, oui, et comme il manque beaucoup de femmes à cause des maladies, de la maladie, je fais un plein temps en ce moment. Le magasin marche bien. Les clients, enfin, ceux qui ont les moyens, achètent beaucoup de draps, valises, vêtements, et serviettes de toilette et tout quoi. Mais tu demandes, et vous, Jules ? Et lui dit, nous aussi, nous marchons aussi très bien. Les gens achètent pour leur maison de campagne. Ils la rénovent pour y vivre à cause de la maladie aussi. Non, pour le moment, on n'a pas de problème de chômage. Et puis, avec tous ces morts, alors, ça a diminué le chômage. En ce moment, le bâtiment marche à fond. La réhabilitation de Paris se fait à grande vitesse. La maladie libère les appartements et les immeubles. Et par mesure de salubrité, on démolit en urgence ces immeubles et des rues entières. Si ce n'est pas des quartiers, les quelques personnes qui n'ont pas été contaminées sont menées dans une banlieue. On leur dit en résidence de protection médicale, anti-contagion. Ça fait mieux, mais c'est des HLM. Ils ont changé de dénomination pour que les gens acceptent d'y aller. Et s'il dit, demain j'irai voir ma mère à la prison, je lui dis, si on te laisse passer, parce que les prisons sont en zone de protection à cause de la contagion. Et s'il lui dit, je verrai bien. Et puis il faut que j'aille aussi au lycée. Mathieu demande, et pour les produits d'alimentation? Sa mère lui dit, c'est très difficile. Les paysans ne produisent plus. Seuls les produits pontois produisent des produits. Les autres producteurs ne le font pas à cause de la contagion. Alors on achète ce que l'on peut parce que c'est des produits qui sont tout de même assez chers, les produits pontois. Ils ont continué à parler pendant quelque temps, puis sont allés se coucher. pour les deux garçons, dormir dans un lit à l'intérieur d'une maison, ils n'en ont plus l'habitude et dorment mal. Et puis aussi, il y a le bruit de la ville. Des chantiers. Il y a de plus en plus de camions qui viennent 24/24 prendre les corps. Tout ceci donne une ambiance irréelle de film d'horreur. Des camions qui 24/24 avec les soldats viennent chercher les corps dans les immeubles. Puis condamne l'entrée de l'immeuble une heure plus tard. Une équipe de démolition arrive avec des bulldozers, camions, les barricades protègent bien le lieu avec des gardes et chiens et commence à démolir. Pour la nuit, pour travailler, il y a des projecteurs. Les projecteurs sont sur des camions. Les déchets de l'immeuble sont mis dans des camions à cause de la contagion. Ils sont mis dans des trous, et on les recouvre de chaux. L'immeuble démoli, le terrain est rempli de chaux vives. Puis, on y met le feu, de l'essence, et on y met le feu. Tout ceci sous la surveillance des pompiers. Ensuite, l'on barricade l'emplacement. Et on inscrit ici prochainement un immeuble de 5 étages grand standing du F1 au F6. Mise en vente des appartements sur plan de suite. Téléphonez au 04 78 39 18 15. L'immeuble est un immeuble de luxe de la Franblanc Compagnie, bâtiment, production. De première qualité. Le lendemain matin, des grues des bulldozers les baraques on pose des baraques pour le personnel. La bétonneuse et on peut commencer le chantier. Chez Franblanc, on est efficace et rapide. Pour ce qui est des corps, les camions les emmènent hors de la ville, en banlieue. Pas bien loin des HLM, pour montrer aux gens Ils ont bien fait de quitter la ville. On met les corps dans des fosses. Et on les brûle. Brûler, ça fera de la place pour en mettre d'autres par-dessus. Ceci peut durer indéfiniment. Économie de terrain. Et plus on en brûle, plus il y en a. La chaleur de ces feux, pour certaines résidences, chauffage à l'eau collective, passe dans des tuyaux qui sont sous les fosses. Et cette eau est chauffée, chauffe les radiateurs des HLM pour le chauffage et l'eau courante et l'eau chaude. Économie d'énergie. Grâce à ce système simple, le groupe Franblanc HLM a gagné de l'argent pour des économies d'énergie et a reçu un prix pour l'énergie d'énergie européenne pour l'économie d'énergie européenne. L'été, bien entendu, le radiateur ne marche pas, mais les fosses servent à chauffer l'eau domestique. Ce qui fait que les corps des pauvres servent à chauffer les appartements des pauvres. Et lorsqu'il n'y aura plus de contamination, de mort, les fosses resteront et on continuera à y mettre des cadavres, ceux des maisons de retraite et des prisons. Dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La plante du diable, production mise en scène Julien Jean-Pierre.